Alléluia. 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 Oui, tu es élevé. Ton trône est souverainement élevé. Ton trône est au-dessus de tout. Tu habites dans le lieu le plus élevé, au-dessus des cieux. Car les cieux et les cieux des cieux sont trop petits pour te contenir. Tu es infiniment grand. Éternel est ton nom. Tu es Dieu, Seigneur, le Créateur de l'univers, le Père de toute la création. Éternel est ton nom. Oui, Dieu aujourd'hui, Dieu hier, Dieu éternellement, tu ne changes pas, tu es le même. Alléluia. Et ce matin, tu es là, au milieu de ton peuple. Tu veux rencontrer ton peuple, chacun selon ses besoins à travers ta parole, Seigneur. Nous venons nous vider devant toi. Nous te prions, Seigneur, de parler à nos cœurs, de rencontrer chacun de nous, Seigneur. De relever, de restaurer, de redresser, de bénir, de guérir, au nom de Jésus-Christ. Moi, ton serviteur ce matin, bénis-les, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, comme je l'ai dit au début du culte, nous avons un fils maison qui va nous parler de la part de Dieu. Ceux qui ne les connaissent pas, il s'agit bel et bien du pasteur Martin Smukanda, qui est pasteur de la bannière à Lausanne, à Gramalik, sur Côte Matadi. Il fait un bon travail là-bas. Et il est sur les traces de notre papa. Il est déjà inscrit dans le programme de doctorat. Après avoir fini son programme de master en relations d'aide, il termine un autre master en exégèse, et il est dans ce programme de doctorat en théologie. Le pasteur Martin va nous apporter la parole ce matin. Si nous sommes dans la joie, je vais lui céder le micro alors que nous l'accueillons au nom de Jésus.
Shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et avant que nous puissions partager quelque chose de la part de notre Dieu, je veux m'acquitter du devoir naturel d'un fils. C'est celui de reconnaître la confiance que les parents nous ont accordé ce matin pour que nous puissions apporter la parole de Dieu auprès de vous. Alors nous disons merci à papa, merci à maman qui est présente, et nous disons merci aussi aux collègues et amis pasteurs qui constituent le collège des pasteurs ici, pasteur Élie, pasteur Doris, que le Seigneur vous bénisse, et merci à toute l'Assemblée pour votre présence. Merci au Saint-Esprit qui vous a convaincu d'être là dans sa présence. Et comme il vient de le dire, plus nous sommes en train d'étudier, plus nous avons peur de parler de la part de Dieu. Parce que c'est une grande responsabilité. On se rend compte de beaucoup d'erreurs et puis on voit que c'est un lourd fardeau. Alors, espérons que le Saint-Esprit va m'aider à être à la hauteur de votre attente. Nous allons prier pour le message. Tendre Père, nous te disons merci. Ce temps que tu avais déjà prévu avant même la fondation de ce monde.
Tu connaissais.
Tu connaissais, Seigneur, que nous allons nous réunir aujourd'hui.
Mais Seigneur, tu connais la situation de chacun. Seigneur, nous sommes dans le ténèbre. Seigneur, à des degrés différents. Mais ce matin, nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de la lumière. Seigneur, éclaire nos vies ce matin. Je t'en prie, Seigneur, que tous ceux qui sont venus, Seigneur, pour te chercher, puissent avoir la lumière et plus de connaissances, Seigneur, sur toi. C'est de cette manière que nous serons bénis. Seigneur, la bénédiction vient de la connaissance de ta personne. Bénis ces instants et Saint-Esprit, assiste-moi et assiste toute l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 3, nous allons lire les 8 premiers chapitres, versets. Donc Jean 3, 1 à 8. Jean 3, 1 à 8. L'histoire est très longue, mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce texte. On va s'arrêter au verset 8. Je ne sais pas si nous sommes dans le texte. Je vais lire pour nous tous. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus, de lui, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un Dieu venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, partant de notre texte, nous avons intitulé notre intervention, bien notre message, bien le message de Dieu, de ténèbres à la lumière. De ténèbres à la lumière. Sans la lumière, c'est difficile de faire quelque chose. Sans la lumière, on est perdu. Et c'est en méditant cette parole que j'ai compris pourquoi l'Éternel, j'approfondis cette connaissance du pourquoi le Seigneur avait commencé par d'abord créer la lumière, faire appel à la lumière au commencement de ce monde. C'est la lumière qui était appelée imprégnée. Et raison pour laquelle Jésus se déclare aussi la lumière du monde. Lorsque on manque la lumière, ou
lorsque nous nous retrouvons dans les ténèbres, on tâtonne. On pense aller de l'avant, on pense réussir, mais des fois, on est dans l'échec. C'est le cas aussi de Nicodème, qui était un homme respecté, instruit, et il vient, malgré son grand savoir, voir Jésus. Et Jésus l'avait ramené de ténèbres à la lumière. Des fois, on a toujours des souvenirs lorsque on fait quelque chose dans les ténèbres. Le résultat n'est pas toujours bon. Et je me souviens une fois, j'étais chez mon grand frère ici à Limité, on priait encore en face de l'Ista, et on était des étudiants. Un matin, après avoir rangé les véhicules de mon grand frère, il y avait la coupure du courant. Il est monté vite dans le véhicule pour aller au travail. Il arrive au travail, il se rend compte que quelque chose n'allait pas. Parce qu'il s'était habillé dans les ténèbres. Il s'est permis même de sortir. Il s'est permis de promener dans la ville, même arriver au bureau. Mais quand il a regardé les souliers, il avait des souliers de deux couleurs. Et c'est ce moment-là, il se rend compte que, mais comment je suis arrivé à porter comme ça là? Quelqu'un qui venait à l'aise, il était sûr de lui-même. Mais quand il a découvert qu'il avait deux souliers différents et de couleurs différentes, il dit, mais comment je peux travailler? Et c'est comme ça qu'il est rentré vite et je vis quelqu'un venir comme s'il y avait un grand problème. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais regarde toi-même. Regarde. Tu es arrivé dans le Seigneur. Lorsqu'on est dans les ténèbres, on peut avoir la bonne volonté. On peut travailler. On peut penser qu'on avance. Alors qu'on n'avance pas. Des fois même, on est en train de reculer. On ne pense pas qu'on recule. Et tous, nous avons besoin de la lumière. Pour passer des ténèbres à la lumière, nous pouvons retenir trois choses essentielles dans ce texte. D'abord, la soif de la vérité. La soif de la vérité, la foi sincère et la connaissance de la personne de Christ. Voilà, ce sont les trois choses qui vont constituer l'ossature de notre message, et sans plus tarder, nous avons commencé par le premier point, c'est la soif de la vérité. Lorsqu'on a la soif de la vérité, on va arriver à la vérité. Mais lorsqu'on n'a pas la soif, c'est difficile. Il en est de même de dons spirituels. Dieu, le Saint-Esprit, regarde dans le cœur. Lorsqu'on a la soif, et Dieu accorde. Ici, dans le texte que nous voyons, on nous parle de Nicodème qui est venu la nuit pour voir Christ. Je vous invite de rentrer dans le texte avec moi. Il est dit à partir du premier verset, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est au verset 2 que nous constatons la soif de la vérité auprès de Nicodème, qui va lui auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais. » Si tu n'es pas avec lui. Voyez, Jean, lorsqu'il est en train de raconter, il donne des précisions. Il donne d'abord des précisions que Nicodème n'était pas n'importe qui. C'est au verset 1. Il dit, il y a un homme d'entre les pharisiens. Nicodème était pharisien. Et il était un chef des juifs. Et lorsque nous évoluons dans le texte, nous allons voir que Christ qui le connaissait, et il dit qu'il était docteur. Mais, malgré son estime, malgré ses titres, Nicodème est venu auprès de Jésus, de lui. Et regardez quelque chose qui marque encore, il appelle Jésus Rabbi. Rabbi, c'est-à-dire maître. Lui qui est maître, et il appelle maître. On comprend pourquoi il est venu là, lui. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'était pas un docteur ou bien un enseignant formé des écoles de Jérusalem. Il n'avait pas aucun diplôme des hommes. Il n'était pas passé par les universités académiques des hommes. C'est pourquoi lorsqu'il a commencé à enseigner, c'était un problème. Tout le docteur ne pouvait pas le prendre pour un imposteur, pour un aventurier. Les gens qui ont passé beaucoup de temps à apprendre les Écritures. Et vous voyez un jour surgir quelqu'un qui commence à apprendre. Il enseigne dans la rue, sur la place publique, il enseigne dans les maisons, il enseigne dans les synagogues, il enseigne même dans les temples. Ça énerve les docteurs. Ça énerve. Et quelqu'un, un grand docteur parmi eux, ne pouvait pas se permettre d'aller comme ça. C'est un risque non seulement pour sa réputation, même pour sa vie. Parce qu'un tel homme, on pouvait même le tuer. Mais tellement qu'il avait soif, d'apprendre. Il est venu de lui pour voir Jésus. Et il montre ses bonnes intentions. Il dit, Rabbi, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu es en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous constatons que Nicodème avait une soif. Il avait une soif de mieux connaître Jésus-Christ. Il avait vu des miracles authentiques, incontestables, mais il voulait apprendre encore plus. Alors que ses collègues traitaient Jésus-Christ et ses disciples, les gens sans instruction. Nous avons la référence dans Acte 4, 13. Et ce qui vient encore corroborer cette confusion, c'est Jean 7, 15 à 16, là où les Juifs s'étonnent. Ils disent, comment connaît-il, ils sont en train de parler de Jésus, comment connaît-il les Écritures sans avoir étudié? Mais Nicodème avait une soif intérieure, cette soif dépassait la peur du regard des autres. Pharisiens, membres du Sanhédrin, avec beaucoup de respect, il prit le risque pour venir vers Jésus de lui, reconnaissant en lui un maître envoyé de Dieu. Cet acte révèle une vérité spirituelle. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Quelles que soient les conditions. Mais lorsque on cherche Dieu sincèrement, on va le trouver. Nicodème est venu timidement, mais sincèrement. Jésus lui a confié une grande vérité de l'évangile. Il faut naître de nouveau. Jean 3, 3, 6. Et c'est là où le prophète Jérémie avait dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Jérémie 29, 13, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous contentons pas de venir dimanche après dimanche sans chercher à connaître la personne de Jésus. Nous devons plus avoir la soif de le connaître. C'est comme ça qu'il va nous amener dans la lumière. Il va nous apprendre ce que nous ne connaissons pas. Ne nous contentons pas d'écouter dimanche après dimanche la parole de Dieu sans avoir soif. Ne nous contentons pas de rester dans les services sans avoir soif de connaître, d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Sans cette soif, personne ne peut le connaître. C'est cette soif qui transforma Nicodème, qui plus tard, il s'associa à Joseph d'Arimathée pour ensevelir Jésus. Jean 19, 39 à 40. C'est cette soif-là qui fait des disciples. On ne peut pas être disciple sans la soif. Et pour aller plus loin avec le Seigneur, nous avons besoin de cette soif. Et c'est cette soif-là qui va faire en sorte que nous puissions être transformés. Et pour terminer cette partie, je me souviens de l'autobiographie de Billy Graham qui raconta qu'il avait grandi dans une famille chrétienne. Il avait entendu pendant toute son enfance, il avait entendu de tonnes et de tonnes de prédications. Mais il n'avait pas une relation personnelle avec Jésus. Mais lorsqu'il eut 16 ans, c'est à ce moment-là qu'il avait compris que Jésus-Christ était mort pour lui. Est-ce que toi aussi, tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi? Est-ce que tu es conscient? Ce matin, tu dois être conscient que Jésus-Christ est mort pour toi. Et lorsque tu es conscient de ça, ça va transformer ta vie. La soif amène à la lumière. Et nous ne voyons pas seulement la soif, il y a aussi la foi sincère. Nous voyons une foi sincère auprès de Nicodème. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin nous sommes là avec une foi sincère? Parce qu'il y a une foi sincère et une foi superficielle. Mais des fois, nous venons sans le savoir, parce que nous sommes dans les ténèbres avec une foi superficielle. Regardez ce texte tel qu'il commence au verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs. Lorsque vous lisez ce texte-là, vous allez vous rendre compte que l'auteur ou bien Jean est en train de nous dire qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre. Et une chose qui met en opposition l'attitude de Jean, plutôt l'attitude de Nicodème, avec une autre attitude. C'est pourquoi il utilise « mais ». Un chapitre qui commence par « mais ». Et on ne peut pas continuer comme ça, et on ne peut pas lire comme ça, sans chercher pourquoi Jean a dit « mais ». Donc derrière, il y a une information. Et quelle est cette information? Nous devons reculer. Et nous reculons dans les Jean 2 maintenant, dans le chapitre, et les trois derniers versets. Il est dit ceci. Donc Jean, chapitre 2, du verset 23 au verset 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent à son nom, voyant les miracles qu'il faisait.
Mais Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc ici, Jean, qui a donné ce témoignage, met en opposition l'attitude des gens qui ont connu, qui ont vécu le miracle de Jésus, mais dont le cœur était indifférent. Pour eux, c'était seulement le miracle. C'est ce que Jean est en train de nous dire. Mais par contre, il dit, mais, il y a eu un homme d'entre les pharisiens, Nicodème, un des chefs des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus, de lui, et lui dit. Lorsque nous sommes dans le verset 2, il est en train d'évoquer même le miracle. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors que les autres négligent les miracles. Il fait le miracle, Jésus fait le miracle, ça s'arrête là. Ah, Dieu est bon, Jésus est bon. Des fois même quand on est, des fois on n'est pas sincère avec lui, il fait le miracle. Et je vois là que même les miracles que Dieu, même certaines bénédictions que nous avons, même les miracles que Dieu opère, même des guérisons, des fois Dieu le fait par amour et par miséricorde. Parce qu'il dit ici, il a fait beaucoup de miracles, mais aucune confiance. Il n'a pas de confiance parce qu'il connaît le cœur. Mais par contre, avec Nicodème, Nicodème va au-delà. Nicodème ne s'était pas contenté d'admirer le miracle, mais il va vers Jésus pour apprendre plus, pour comprendre qui est vraiment Jésus, au-delà des miracles. La leçon que nous pouvons retenir est claire. Il existe une différence entre une foi superficielle et une foi sincère. La foi superficielle disparaît quand les difficultés surgissent. Mais la foi sincère s'attache à la personne de Christ. Même si on n'a rien. Même si on manque à manger. Même si on manque des habits. On s'attache à Jésus. Comment éviter une foi superficielle? Pour éviter une foi superficielle, il faut éviter de se limiter aux bénédictions visibles et que Dieu puisse aider quelqu'un, comme le Saint-Esprit avait touché Nicodème, toucher quelqu'un qui est venu ici parce qu'il est malade. Il n'est pas venu ici pour Jésus, pour apprendre Jésus, parce que la parole sera donnée. Est-ce qu'on a soif encore de connaître Jésus? On va rentrer à la maison, on ne regarde même pas le texte. On lit même pas la Bible. On a la Bible, mais c'est pour les décors. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Ce qui est étonnant, parmi nous, il y a même d'autres qui ne prient pas. On prie seulement ici. Quand il y a le moment, on prie. Mais lorsqu'on est à la maison, on est fatigué, on rentre fatigué. On ne prie pas. Est-ce qu'on prie pour apprendre plus? Est-ce que nous aimons réellement Jésus? Ne nous limitons pas aux bénédictions visibles, mais demandons que Dieu puisse nous donner la foi sincère. La deuxième chose pour éviter une foi superficielle, il faut évaluer nos motivations. La foi authentique s'attache au Christ, non à ses dons. J'aime ce texte de Nicodème qui dit ceci, plutôt ce texte d'Habacouc 3, 17 à 18 qui dit ceci. Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai à l'Éternel. Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai de l'Éternel. Est-ce que tu peux te réjouir
dans l'éternel alors que les choses ne marchent pas. Est-ce que tu peux continuer à aimer Christ? C'est ça la foi sincère. Bien-aimé dans le Seigneur, ne restons pas dans sa présence parce qu'on a des problèmes. Mais cherchons, ayons la foi sincère sur la personne de Christ. Cherchons à nous attacher à lui. Et la troisième chose, c'est la connaissance de l'identité de Jésus. Lorsque nous quittons des ténèbres à la lumière, nous avons la connaissance de l'identité de Jésus. Le manque de soif, le manque de la foi sincère prouve qu'on a une connaissance aussi limitée, on n'a pas de connaissance sur l'identité de Jésus. Regardons dans notre texte, c'est un texte très intéressant. Et Nicodème, dans le verset 2, il dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais écoutez la réponse de Jésus dans le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas de Dieu. Autrement, Christ lui dit, Nicodème, je te le concède. Nicodème, ce que tu dis là, ça dépend de ta connaissance. Pour Nicodème, Jésus-Christ était docteur. Mais Christ est en train de l'amener plus loin. Et c'est plus loin que nous allons comprendre qui est ce Jésus. Est-ce qu'il est réellement docteur? Pour Nicodème, Jésus-Christ est docteur. Mais Christ lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, il utilise le verbe voir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir Jésus, mais il ne le connaît pas. Pas. Il est en face du chef du royaume de Dieu, il le connaît. Il est en face du Messie, mais il ne le connaît pas. Vous voyez comment il était dans les ténèbres, comment il était limité, sa connaissance était limitée, et lui s'est dit, mais Dieu docteur. Non, Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je vous l'ai dit, il était Dieu pour lui, et il est Dieu pour nous. Il ne peut pas dire que tu es docteur. Non, Christ est au-delà. C'est lui le roi des rois. C'est lui qui est le chef du royaume. Sans lui, le royaume de Dieu n'existe pas. Ils attendaient le royaume de Dieu, mais il était avec le roi du royaume des cieux. Il était en face de lui, mais il ne connaissait pas. C'est pourquoi Jésus lui dit, je te comprends Nicodème, avec tes yeux physiques, tu ne me verras pas comme roi, mais je suis Jésus-Christ, le roi des rois, le prince de la paix, c'est lui qui ôte le péché, c'est lui qui appelle de ténèbres à la vie, c'est lui qui donne la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire cette connaissance. Jésus que nous venons chercher, ce n'est pas le faiseur de bien. Nous comparons, nous avons dans notre tête un Jésus faiseur de bien. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta connaissance augmente ce matin. Que ta connaissance augmente. Certes, tu as des problèmes, mais cherche cette connaissance de la personne de Jésus. Parce qu'avec Jésus, tu as la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, je change ma façon de dire. Jésus-Christ est celui la solution. Jésus-Christ est celui la guérison. Jésus-Christ est celui la bénédiction. Jésus-Christ est celui la vie. Et des fois, Dieu permet que nous soyons dans les besoins. Ce n'est pas pour que nous puissions courir derrière lui pour avoir des solutions, mais nous devons dire, Jésus, je viens auprès de toi. Et lorsque on va vers lui, lorsqu'on prie comme un, lorsqu'on crie et on court vers lui comme un enfant, lui-même, il connaît nos besoins réels. Change tes pensées ce matin. Ne demeure pas comme Nicodème à ce stade ici. Jésus lui dit, je te le conseille en vérité. Et j'aime ce qu'il dit, le texte devient très intéressant. Nicodème lui dit maintenant, mais lui, il est toujours dans la chair. Il faut petit à petit, comme un petit enfant. Christ est en train de l'amener comme un petit enfant à un docteur, un grand docteur. Et Nicodème, il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus-Christ dit encore, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Mais, permettez que j'ouvre quand même cette parenthèse. C'est nécessaire avant... Et parce que, avant que nous puissions terminer, Christ est en train d'utiliser une technique spéciale. Il veut partir pour qu'il puisse comprendre, connaître Jésus-Christ, pour qu'il puisse le connaître. Il part de quelque chose que Nicodème connaît vers quelque chose qui est irréfutable. Et cette chose-là irréfutable, c'est ça même qui va lui donner la vie. Il lui dit, personne ne peut naître d'eau. Et lorsqu'il parle que personne ne peut naître, il faut naître d'eau et d'esprit, en parlant, il utilise deux mots. Il y a d'abord le mot eau, et ça c'est un terme que Nicodème connaissait. Nicodème savait que l'eau symbolisait la purification. Et ça, c'est par rapport à son passé, par rapport à tous les enseignements qu'il avait eus. Mais, dans la connaissance immédiate, l'eau a changé de signification. Il sait que parmi les pharisiens, il y a des gens qui vont au baptême d'eau. Le baptême de Jean. Jean-Baptiste. Il y avait un baptême de Jean-Baptiste. Mais dans le baptême de Jean-Baptiste, quel était le message? Le message, c'était la repentance. La repentance. Et c'est là où Nicodème commence à voir un peu clair. Parce que Jean, nous pouvons rentrer dans Matthieu 3, à partir du premier verset, nous pouvons comprendre cela. Rentrons un peu là-bas et Matthieu chapitre 3. À partir du premier verset. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il continue dans le verset, on continue à lire, prenez le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et le verset 7 dit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas en vous-même. Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jugé au feu. Et moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans le royaume de cieux, il faut d'abord confesser ses péchés et puis se repentir. Tu dois tourner. Le Saint-Esprit, il y a le travail du Saint-Esprit, il y a aussi le travail personnel, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous touche et nous devons aussi changer. Nous devons accepter d'abandonner notre ancienne vie. Même aujourd'hui, dans le royaume des cieux, nous avons besoin de la repentance. Tu dois abandonner la vie de péché. Et pour connaître, entrer dans le royaume de Dieu, il faut abandonner ça. Et ce qui est merveilleux ici, là, Nicodème est d'accord. Il comprend parce qu'il est dans ce contexte-là. Il apprend encore plus. Maintenant, il parle du Saint-Esprit. Là, il comprend que je monte à un autre niveau. Parce que l'entrée dans le royaume de Dieu dépend de la parole qui prêche la repentance, qui nous amène à abandonner le péché. Bien-aimé, si tu vis dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, comme Jean est en train de le prêcher ici, tu le seras jeté dehors. Même si ce sont des péchés cachés, mais tu seras jeté dehors. Mais j'aime Jean, ce qu'il est en train de dire dans notre texte, il dit, dans le verset 5, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, il veut faire comprendre les choses à Nicodème, ce qui est né de chair et chair. Et là, Nicodème est d'accord, nous tous nous sommes d'accord. Mais il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, il parle maintenant de l'activité du Saint-Esprit. Dans le verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est né ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La part essentielle, la part importante du Saint-Esprit. Mais on ne sait pas ce que le Saint-Esprit fait. Lorsque le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme, tu verras seulement quelqu'un venir te demander pardon. Tu vas voir quelqu'un venir te demander pardon. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché pour que nous puissions confesser. On ne peut pas contrôler l'activité du Saint-Esprit. C'est comme le vent. On sent, on voit que le sang et le vent passent, le feuille bouge, la poussière monte. Et la poussière peut même symboliser le péché. Lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un, on devient mal à l'aise lorsqu'on vit dans le péché. Tu ne seras pas à l'aise, tu seras troublé. C'est comme le vent qui fait soulever la poussière. Le Saint-Esprit aussi met en lumière le péché caché. Tu ne peux pas être à l'aise avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à abandonner les péchés et le Saint-Esprit fait un travail, un grand travail intérieur. Et on ne sait pas C'est ça, c'est ce qui est bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas comprendre le surnaturel. Même quand tu viens ici, tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire avec toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, c'est comme ça que je voulais ouvrir cette parenthèse et presque terminer mon message. Parce que je voulais qu'on ouvre cette parenthèse. En conclusion, je vais dire ceci. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons découvert à travers Nicodème trois réalités essentielles pour passer des ténèbres à la lumière. La soif de la vérité, comme Nicodème. Il ne suffit pas d'admirer les miracles et de suivre les gens, mais il faut chercher Christ de tout cœur. Avec une soif sincère de connaître la vérité, c'est cette recherche personnelle qui attire la révélation de Dieu. La foi sincère, c'est la foi authentique qui ne repose pas sur les bénédictions matérielles, sur le miracle ou la prospérité, mais sur la personne de Jésus. Elle persévère même lorsque les difficultés viennent, cette foi-là, et elle transforme le cœur et conduit à la vraie intimité avec le Seigneur. La connaissance de l'identité de Jésus. Jésus n'est pas seulement un maître ou un bienfaiteur. Il est la vie. Il est la lumière. Il est le roi des rois. Seule la rencontre personnelle avec lui peut combler le vide intérieur et donner une vie nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez que je puisse aussi raconter quelque chose que j'avais vécu il y a très longtemps. Mon grand frère avait un ami avec qui ils avaient étudié. Et eux, ils avaient trouvé de l'emploi, mais lui, il est resté pendant longtemps en chômage. Il écrivait, il déposait des demandes d'emploi, mais il n'avait pas de réponse. À un moment, je rencontre le président. À cette époque, c'était le président Mobutu. Et je vais faire tout pour le rencontrer. C'est lui qui a la solution à ma souffrance. À cette époque, le président restait en scellé. Et il partait, il avait soif de rencontrer le président. Et il avait confiance qu'avec lui, il trouvera la solution. Il est parti maintes fois dans les difficultés, même en trichant là, à ne pas payer même le billet de transport. Il trichait là pour se retrouver en scellé. Mais quand il arrivait, des fois, il ne voyait pas. Il passait des heures, il ne voyait pas. Des fois, il pouvait les voir, mais les militaires étaient là. Un jour, quand il est arrivé, il a essayé de calculer la distance. Mobutu était sur le bateau, il regardait un peu la nature. Alors lui, il a calculé de là où il était. Il a dit, si je crie vers lui, il va m'entendre. Et il a crié, papa, papa, je souffre. Je sais que président, tu es mon papa. Et le président avait écouté, il a tourné. Il a vu, sauve-moi. Alors, quand il a crié comme ça, les soldats sont allés. Ils voulaient l'arrêter. Le président dit, laisse-le. Et c'est comme ça qu'il avait accueilli. Ils ont discuté, a compris que c'était un monsieur qui avait étudié. Il a demandé les études qu'il avait faites. C'était un universitaire. C'est quelqu'un qui avait fait même de l'économie ici à l'UNIKIN. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, papa, je souffre beaucoup, mais j'ai besoin du travail. Il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, tu as du travail. Comme tu m'as rencontré là,
tu as du travail. Et il prend le téléphone. Il appelle le DG de la SNEL. Et dit, écoute, j'ai mon fils. J'ai mon fils que je te recommande maintenant. Et il faut le prendre comme directeur. Parce que c'est mon fils. Et dans l'entretemps, il dit, il faut lui préparer même une maison. Avant de sortir, lorsque Dieu bénit, des fois, les bénédictions de Dieu donnent des vertiges. On comprend, est-ce que c'est un rêve ou bien c'est pas un rêve? Et on lui avait donné un chauffeur avec de l'argent pour l'amener à la maison. Et il avait pris le rendez-vous le lendemain pour qu'il puisse aller commencer le travail. C'est comme ça que il était engagé comme directeur. Et ce qui est formidable, ce qui était exceptionnel, pendant tout le règne du président, il était toujours directeur et personne ne pouvait le toucher. Mais bien aimé dans le Seigneur, à un moment, et au moment où nous parlons, Mobutu n'est pas là. Mais ce que Mobutu a fait, Christ fait plus que ça. Lorsqu'on cherche, on le cherche de tout son cœur. Lorsqu'on a la soif, bien-aimé, et quand il te place quelque part, c'est comme ce directeur-là. Tu vas rester directeur pendant son règne. Mais quel est le règne? Quelle est la durée du règne de Jésus, lui qui est éternel? C'est pourquoi quand il te place, quels que soient les ennemis, personne ne peut te sortir de là. Et quand il te recommande comme son fils, si réellement tu as une foi sincère, bien aimé dans le Seigneur. Le besoin que tu as, c'est pour t'amener à la connaissance de Jésus. Et lorsque tu rencontres Jésus, ta vie change. Amen.
Nous allons prier le Seigneur. Quand on est dans le ténèbre, on est comme aveuglé. On ne sait pas voir. Nicodème n'a pas su discerner qui était en face de lui. Jésus était là. Mais il était aveuglé. Et elle lui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui nous amène dans la lumière. Vous avez été touché par cette parole d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous voulez qu'on prie pour vous. Levez la main là où vous êtes. Nous allons prier pour vous. Et le Seigneur va vous aider. Vous avez besoin de les rencontrer. Vous voulez lui donner votre vie. Vous voulez naître de nouveau comme Nicodème. Vous pensiez que vous connaissiez Dieu. Vous marchiez avec lui. Mais ce matin, vous voulez repartir sur de bonnes bases. Et à la grâce de Dieu ce matin, là où vous êtes, vous levez tout simplement la main et on va prier pour vous. On n'a pas beaucoup de temps. Merci pour les mains qui s'élèvent. Merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, vous avez été touché par la parole. Levez la main aussi. C'est Jésus-là, c'est lui la solution à tous les problèmes. Il donne la solution plus que les présidents ne les donnent. Il donne la guérison. Il donne les enfants. Il donne tout ce que nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Levez aussi la main. Élevez-vous là où vous êtes. Père Ernest va prier pour nous. Levez-vous là où vous êtes, s'il vous plaît, vous qui avez levé la main. Vous avez été touché par cette parole, mais la laissez pas passer comme ça. On va prier.
Précieux Père Céleste, quelle bénédiction ce matin que de te rencontrer dans ta parole. Merci parce que tu es venu nous révéler ta personne. Au-delà de nos besoins ce matin, c'est toi qui es l'attraction de nos vies. Merci Parce que le bien-aimé qui veulent te donner leur cœur ce matin sont là. Alors reçois-les, Seigneur, afin qu'ils vivent le bénéfice du royaume. Et nous tous, Seigneur, debout, présents en ces lieux, nous implorons le Saint-Esprit, afin que l'onction de cette parole soit notre partage. Christ est la solution. Le connaître, c'est cela la vie éternelle. Oui, apprends-nous ce matin à ne compter que sur toi, à ne voir que toi, à ne s'attacher qu'à toi, que nous ne soyons plus distraits, ni par le problème, ni par les épreuves, ni par les difficultés, parce que tu es le tout pour nous. Alors bénis cette parole et celle-là dans nos cœurs. Bénis ton serviteur, Seigneur. Laisse que son ministère soit béni et que ses révélations et témoignages qui sortent continuent à édifier ton peuple. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Nous acclamons pour la parole de ce matin.